Les nouvelles du futur, c'est parti. Je suis Richard, blogueur, et depuis 2005, j'ai pour objectif d'explorer et de décoder l'actualité des nouvelles technologies et des jeux vidéo. Première nouvelle, très franco-française, mais quand même intéressante, il est désormais possible de recharger son Navigo sur son iPhone. Alors le Navigo, pour ceux qui ne sont pas en région parisienne, vous savez, c'est cette carte qui permet de prendre le métro et les trains dans toute l'île de France. Et bien, depuis peu, vous pouviez le faire depuis votre smartphone Android, et c'est enfin possible aussi sur iOS. En fait, ça utilise le NFC, vous savez, le sans contact, et il suffit de poser son pass Navigo à l'arrière de son téléphone et de faire toutes les manips guidées par l'app de la RATP. C'est assez cool parce que ça évitera de faire la queue aux bornes au début du mois, et puis ça va faciliter la vie de tout le monde en attendant que ce soit vraiment 100% intégré à son téléphone, sachant que quand même il y a une partie de gens, et je peux les comprendre, qui sont plutôt contents de ne pas avoir à sortir leur téléphone pour biper au passage des portes. Donc voilà, c'est assez intéressant, ça marche comme je le disais sur iOS mais aussi sur Android. Passons sur le gros business rachat de la semaine. Et ce qui a un peu défrayé la chronique de la Silicon Valley, c'est le rachat de Tidal par Square. Alors, parlons de Tidal. Tidal, c'est un service qui a été lancé par le chanteur Jay-Z il y a maintenant 5 ans et qui avait pour objectif d'être bien sûr une alternative à un concurrent à Spotify ou encore à Apple Music, mais qui était beaucoup plutôt orienté pour aider les chanteurs et les artistes à créer et à gérer leur communauté. Donc on est plus que dans, si on prend Spotify qui est vraiment tourné autour des playlists, vous avez vraiment un Apple Music qui lui est tourné autour des albums et des chansons, un Tidal, il est tourné autour de l'artiste en lui-même et de sa communication avec ses fans. De son côté, Square a été fondé par une personne qui s'appelle Jack Dorsey, qui est connu surtout pour être un des cofondateurs de Twitter. Et Square, c'est vraiment une solution de paiement qui existe aussi depuis de quelques années déjà et qui facilite pour les petits commerces, notamment aux États-Unis, l'accès au paiement par carte bleue. Donc c'était vraiment un petit accessoire qui avait été développé par un des pontes de Square, qui est un ancien d'Apple, et qui permettait de payer facilement par carte bleue, maintenant qui permet de facilement de payer par carte bleue en sans contact. Et donc Square a mis un petit billet de 300 millions de dollars pour devenir donc l'actionnaire majoritaire de Tidal. Et c'est vrai que, de prime abord, les analystes se sont dit, mais pourquoi une société qui est spécialisée dans le paiement électronique vient s'intéresser à une société qui est spécialisée dans la musique en streaming? La réponse, elle est finalement assez claire et évidente. Comme je l'indiquais, Tidal a pour objectif d'aider les artistes à se connecter à leurs fans, et qui de mieux qu'un fan pour acheter tes produits. Et donc l'idée vraiment de Square, c'est d'accélérer, de faciliter en fait ce lien de monétisation entre artistes et fans et public. On pense bien sûr à tout ce qui peut être merchandising, mais ça peut aussi des concerts en ligne, ça peut être des nouveaux programmes, des exclusivités. On pense aussi à tous ces canaux privés aujourd'hui qui peuvent être créés sur d'autres services où vous avez des relations plus proches et des échanges plus proches. Enfin voilà, on imagine bien qu'il y a vraiment une manière assez évidente demain de monétiser mieux ou en tout cas de faciliter la vie et la relation des artistes et de leurs fans. Allez, moins glamour, mais tout aussi intéressant, je vous conseille d'aller lire l'excellent article de Cyberguerre, un des sites de Numérama, qui traite du sujet de Hydra. Alors Hydra, pour les amateurs de Marvel, c'est le nom des méchants dans Marvel, c'est vraiment une organisation secrète qui vise à déstabiliser le pouvoir. Mais en fait, le Hydra dont je parle, c'est un site russe qui a fait place nette autour de lui et qui est en ligne depuis 2011, alors accessible évidemment que via le réseau Tor, ce qu'on appelle aussi le Darknet, pour faire peur. Donc Hydra, donc depuis 2011, a construit une jolie base puisqu'ils ont 2,5 millions de comptes. Et depuis sa création, il aurait été échangé 3,4 milliards de dollars en Bitcoin. Vous voyez, c'est une grosse plateforme. Et en fait, ce Amazon du Darknet, qui est en train de devenir le leader, a vraiment réussi à s'imposer. Donc il y a cette belle enquête qui explique un peu comment ils ont réussi à repousser leurs adversaires, alors avec des techniques commerciales en allant prendre les vendeurs sur les autres plateformes illégales, mais aussi avec des choses beaucoup plus mafieuses ou illégales, avec des attaques informatiques, des tentatives de piratage. Enfin vraiment, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour faire une série Netflix ou un film. Ils ont même récemment lancé leur service à la Uber, donc avec des coursiers rémunérés à la livraison, avec des choses cocasses, avec le fait que du coup les livreurs cachent les produits illégaux qui sont en vente sur le site dans des endroits un peu loufoques. Enfin, il y a vraiment, c'est vraiment très intéressant. Donc je vous invite à lire cet article sur Hydra, donc dans le, sur le site Cyberguerre. On va partir de la Russie et on va aller directement sur la Lune, enfin au moins autour de la Lune. Cette semaine, le milliardaire Yusaku Maezawa, que MZ pour ses intimes, a lancé un appel sur Twitter et a indiqué qu'il était ouvert désormais à l'envoi de candidatures pour participer au projet Dear Moon. Alors, il faut revenir un peu en arrière. Il y a maintenant un an, ce milliardaire donc japonais qui a fait sa fortune avec, en étant le propriétaire et créateur du plus gros site de e-commerce de vêtements au Japon. Donc, ce milliardaire a annoncé avec Elon Musk qu'ensemble, ils allaient mettre une dizaine de personnes dans un gros vaisseau Starship, hein, vous savez, ces gros vaisseaux de SpaceX, et ils allaient envoyer pour la première fois des civils dans l'espace. Et du coup, Monsieur Maezawa serait le premier civil dans l'espace. Allez, initialement, Maezawa avait prévu de sélectionner des gens, de choisir des artistes ou des gens inspirants qui feraient le voyage avec lui. Et finalement, cette semaine, on apprend qu'il a décidé d'ouvrir l'appel à candidature à l'ensemble de l'humanité. Donc, il y a un site internet qui est disponible, hein, qui s'appelle Dear Moon, et qui permet de s'inscrire. Aujourd'hui, on demande juste ton nom, prénom, pays et un email pour envoyer le processus d'inscription. Et donc, il indique dans une vidéo que je vous invite à regarder que finalement, la définition d'artiste est un peu tronquée. C'est quelque chose de très subjectif. Et donc, il préfère ouvrir la candidature à tout le monde et puis d'après de trier et de voir qui seront les 8 autres civils qui l'accompagneront. Donc, c'est un vaisseau avec 12 places. Il y a forcément l'équipage. Il y aura 8 civils. Donc, Yusaku Maezawa. Et bien sûr, il indique que pour faire ce voyage, il faut bien sûr avoir tout ce qu'il faut, avoir envie d'y aller, bien sûr, évidemment, être prêt à changer le monde et avoir un impact significatif pour la planète. Mais il indique aussi que ce qu'il souhaite, c'est que vous soyez prêt à passer du temps quand même avec des gens, puisque le voyage va prendre quand même 3 jours à l'aller et un petit tour autour de la Lune et 3 jours au retour. Donc il faut quand même se dire que vous allez supporter des inconnus pendant une dizaine de jours. Donc il faut quand même être prêt. Donc voilà, je ne sais pas si vous aviez envie de voyager, mais en tout cas, il faut absolument s'inscrire avant le 14 mars. Et le projet s'appelle Dear Moon. J'avais envie de vous partager un phénomène hyper important et qui fait beaucoup de bruit aujourd'hui sur Internet, c'est les NFT, pour Non-Fungible Token. Je vais essayer de faire simple. L'idée, c'est de créer des certificats d'authenticité pour les œuvres numériques. Vous savez, aujourd'hui, une photo, un MP3, un asset numérique, quel qu'il soit, il suffit de faire copier-coller pour le dupliquer et avoir l'élément identique, sans dégradation de la qualité, sans dégradation de n'importe quoi. Et aujourd'hui, il y a plusieurs sites et plusieurs services qui proposent d'utiliser les techniques de la blockchain, donc comme le Bitcoin, pour faire en sorte d'avoir des certificats d'authenticité pour ces éléments. Donc ça veut dire qu'une photo associée à un certificat d'authenticité peut permettre à quelqu'un de devenir propriétaire de cette photo. Même s'il y a des duplicatas, même s'il y a des copies, en fait, le propriétaire devient... Enfin, il est possible d'avoir un propriétaire, et s'il y a un propriétaire, vous pouvez donc le vendre et certifier de votre propriété. Et sur cette simple idée, enfin, cette idée plutôt qui est plutôt complexe, il y a pas mal d'initiatives qui sont en cours. Donc, une première, c'est vraiment autour de l'art. Donc, il y a aujourd'hui de plus en plus de galeries d'art virtuel et beaucoup d'artistes d'art virtuel qui commencent à créer des certificats d'authenticité virtuelle pour pouvoir vendre leur travail et vivre de leur travail, ce qui est plutôt cool. On a eu cette semaine une artiste qui s'appelle, une chanteuse américaine qui s'appelle Grimes, par exemple, qui a mis 10 de ses œuvres en vente aux enchères, qui a quand même récolté la modique somme de 6 millions de dollars. Et donc, pour certaines, c'est des photos avec de la vidéo et de la musique, donc c'est des passifs vidéo qui durent une vingtaine de secondes. Et donc, pour certaines, elle n'a délivré qu'un seul certificat d'authenticité, donc c'est une œuvre qui sera unique, et pour d'autres, c'est plusieurs milliers d'exemplaires. Donc, un peu comme les tirages de photos. Vous pouvez acheter soit une photo qui est une œuvre unique, ou alors une photo qui a été tirée à 1000, 5000 exemplaires. Du coup, sa valeur nominale baisse, mais vous restez propriétaire d'un exemplaire à série limitée. Donc, voilà, donc c'est très intéressant. C'est en train de grossir. On a eu, dans les trucs plus marrants, on a eu le créateur du Nyan Cat, un gif très célèbre qui existe depuis 2011, qui a vendu le premier exemplaire donc, numérique de ce Nyan Cat pour quand même 500 000 dollars il y a quelques semaines, payé en Ethereum pour l'anecdote. Et vous avez aussi du côté de la NBA une initiative qui cherche à remplacer les cartes, enfin en continuant à faire les cartes bien sûr, mais à transformer le système de cartes de la NBA dans ces fameux NFT. Et donc c'est des boucles vidéo Vous allez avoir, je sais pas, le tir de Michael Jordan dans telle et telle situation. Et donc, il y a une capsule vidéo. Et il va être possible de l'acquérir, et donc d'acquérir un certain nombre. Et donc, ça sera l'équivalent de la carte de telle année, de telle action. Et chaque année, la NBA va produire des nouveaux contenus. Et chaque contenu sera donc identifié pour être attribué à un propriétaire et donc échangé. Et comme vous l'imaginez, beaucoup de gens sont en train de penser au futur et aux capacités, bien sûr, de faire de l'argent, de faire des bénéfices. Enfin, voilà, tout ce qui est un petit peu, qui vient un peu dérégler le système. Enfin, voilà. Ça s'appelle les NFT. Je pense que vous allez beaucoup en entendre parler dans les semaines et mois qui viennent. Enfin voilà, on pourrait dire que vous l'avez entendu ici pour la première fois. Un petit tour par la robotique. Vous savez que j'ai une grande, grande passion pour la robotique et j'aime forcément bien tout le travail de Boston Dynamics qui fait ces robots qui font passer la science-fiction pour un truc simple et fun. Donc, Boston Dynamics, ils se sont fait connaître par leur robot qui marche, qui peut tomber et se relever. Ils ont aussi montré ce chien robot qui danse au Nouvel An et qui est assez sympathique, qui s'appelle Spot. Finalement, il fait un peu moins peur. Eh bien, sachez-le, la police, dans pas mal d'endroits, l'utilise. Et notamment, on a appris qu'il a été déployé pour de vrai la semaine dernière par la police de New York, dans le cas d'une enquête et de quelqu'un qui se serait barricadé dans son appartement dans le Bronx. Et du coup, la police aurait envoyé le robot pour faire... Il ne s'est pas équipé d'armes, il a juste des micros et des caméras. Il est là pour passer devant, on va dire, pour observer, pour être les yeux de la police. Et du coup, forcément, ça a fait beaucoup réagir parce qu'on se dit, OK, est-ce qu'on est prêt à laisser comme ça les robots prendre cette place dans notre société. Et en parallèle de ça, c'est assez amusant parce que quelques kilomètres de là, à Brooklyn, il y avait une exposition qui s'appelait Spot Rampage, qui était organisée par une association de créateurs qui s'appelle MSCHF. Et dans Spot Rampage, en fait, ils avaient du coup pris un robot Spot, le même, le chien robot de Boston Dynamics. Ils avaient mis un paintball et ils proposaient aux internautes de venir prendre chacun leur tour, prendre les commandes du robot et d'utiliser le paintball pour tirer sur des œuvres et donc pour créer comme ça une exposition. Et du coup, l'idée aussi, c'était de dénoncer la violence, les robots et la capacité aussi d'armer ces robots et de transformer quelque chose qui est censé nous aider en quelque chose de destructeur et de létal. Donc voilà, il y avait vraiment une démarche artistique derrière ça. Et le Boston Dynamics s'est plaint du sujet, a dit non, mais qui ne voulait pas être associé à des armes, puisque ce ne sont que des robots, c'est pas des armes. Et au moment où l'opération a commencé, pour une raison inconnue, le robot est tombé en panne. Donc il y a aujourd'hui des grandes conversations de savoir est-ce que Boston Dynamics avait une backdoor et sont venus désactiver le robot de l'association. On n'en sait pas, on en saura peut-être plus dans quelques temps. Allez, petit détour par les jeux vidéo pour finir. D'abord, une première nouvelle. On a eu les chiffres de la consommation et des bonnes ventes du jeu vidéo en France pour l'année 2020. Et c'est une hausse de 11% cette année grâce au boost de FIFA 2020, Animal Crossing, bien sûr la Nintendo Switch. Et on apprend que pour 51%, le business se fait sur les consoles de salon avec les grands jeux HD. Le reste est fait, bien sûr, sur mobile. Donc voilà, la France est un des premiers à sortir ses résultats nationaux, et donc ça a fait un petit buzz dans l'univers de jeux vidéo international. Voilà, c'est des beaux chiffres, et ça prouve que ce loisir se porte toujours bien et forcément a bénéficié de la crise. Et enfin, pour finir, je vais parler d'un jeu, mais d'un éditeur qui s'appelle Mediatonic. Mediatonic, c'est un éditeur anglais qui existe depuis maintenant une bonne quinzaine d'années, qui a fait pas mal de jeux avec un succès honorable, honnête, bien, des petits jeux sympas. Et l'année dernière, ils ont annoncé et sorti Fall Guys, dont j'ai déjà parlé dans ce programme. Fall Guys, c'est un espèce d'interville avec des petits bonhommes mignons où une cinquantaine de joueurs commencent et le but, c'est d'atteindre le bout de la plateforme, un peu comme dans Takashi Castle, sans tomber. Et bien sûr, s'enchaînent plusieurs tableaux et à la fin, il ne reste qu'un seul vainqueur. Le jeu est très coloré, très fun, souvent à tort attribué à un jeu un peu enfantin puisqu'il demande vraiment des skills et de la patience parce que la défaite est parfois dure à digérer. En tout cas, donc ce Fall Guys avait été sorti en septembre de l'année dernière en exclusivité sur PlayStation. Il y avait environ 20 millions de joueurs qui avaient rejoint les serveurs, donc c'est quand même significatif. Le jeu maintenant est disponible bien sûr sur PC. Il vient d'être annoncé sur Nintendo Switch et sur Xbox, donc c'est en train de devenir un jeu vraiment accessible partout, en attendant des annonces qui devraient arriver sur téléphone mobile. Et bien, il faut savoir que Mediatonic, avec ce succès, vient d'être racheté par Epic. Epic aussi, je vous en parle souvent, c'est bien sûr un créateur de moteur 3D, j'en parlais la semaine dernière. C'est aussi un magasin de jeux vidéo en ligne, hein, qui s'appelle Epic Game Store, mais c'est aussi l'éditeur derrière Fortnite. Donc voilà, je pense que pour Mediatonic, c'est une belle nouvelle. Pour le jeu, c'est l'opportunité de se développer et de forcément s'inventer des nouveaux business models. En tout cas, on va suivre ça de très près. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et à bientôt.